adulte puis un jeune juste à côté. Également le rorqual commun que vous avez ici, donc proche cousin du rorqual bleu, la baleine bleue. L'immense baleine noire que vous avez aussi ici, le très massive avec ses très longs fanons. On a un rorqual à bosse qu'on a positionné, c'est comme ça qu'elle serait positionnée si elle s'apprêtait là, à refermer sa bouchée en surface. Là. C'est un jeune individu, donc peut-être là, même pas 2 ans encore. Pas si petit que ça, un petit rorqual. Celui-là fait 7 mètres de long. Et le petit squelette tout recroquevillé qui est juste en dessous, en fait, c'est qu'il s'agissait d'une femelle qui était gestante. C'est le fœtus qu'elle portait. Donc, ça a été une découverte un peu surprenante quand on a commencé à dépecer l'animal, qu'on a décidé de conserver aussi avec le squelette de la femelle.
Sur la route de la Côte-Nord, épisode 1, Haute-Côte-Nord.
La Société des traversiers du Québec vous souhaite une belle traversée.
On entre sur la Côte-Nord par la mer. Passage obligé des voyageurs. Voici que s'ouvrent devant nous les portes d'une région entre roc et marée, sable et montagne. C'est sur le traversier, faisant office de pont, qu'on aperçoit d'abord Tadoussac. On lâche le volant et, pendant la traversée, le temps s'arrête. On regarde la côte et l'enthousiasme nous prend. Parce qu'on se retrouve là, suspendu entre le fleuve et le fjord, avec la certitude que l'on arrive ailleurs. Il y a la houle des grandes marées qui fait tanguer les bouées des pêcheurs. Il y a le vent, maître de tout, et notre fidèle compagnon jusqu'au Labrador. Il y a l'ombre des forêts d'épinettes noires qui découpent le ciel. Il y a les montagnes à gravir qui se dressent de toutes parts. Il y a enfin les plages et les rochers de Tadoussac qui se font plus nets et plus détaillés à mesure que le traversier s'approche de la côte. Enfin, il y a la terre ferme. On y est. Voici le berceau des baleines de l'Amérique du Nord. Cet estuaire dont l'abondance et la vitalité sous-marine surprirent les premiers pêcheurs venus d'Europe. Voici le berceau de l'Amérique du Nord. Cette généreuse terre qui accueille les premiers explorateurs européens.
Tadoussac, au point de vue toponymique, ça provient du terme Innu Tutushat, qui signifie les mamelons, parce que du large, on devine des collines qui rappellent la forme des seins de la femme. C'est un voyage dans le temps qu'on effectue en posant le pied à Tadoussac. On est au berceau de la Nouvelle-France, mais encore là, il faut prendre un grand respire puis se souvenir que les groupes autochtones fréquentaient cette région-là depuis au moins 8000 ans. Mais moi, ce qui me fascine quand vient le temps de méditer sur l'histoire de Tadoussac, c'était de tenter d'imaginer l'importance que ce lieu-là avait avant même l'arrivée des premiers touristes européens, avec un grand T, l'arrivée des Européens, là, si on veut, au 16e siècle. Je me présente Steve Dubreuil, je suis un sétilien d'origine, anthropologue de formation. Puis j'ai eu l'opportunité au fil des années là, de contribuer à plusieurs travaux de nature archéologique là, d'un bout à l'autre de la Côte-Nord. Tadoussac, j'aurais rêvé d'y être au mois d'août 1400, disons, pour voir ce qui se tramait par là avec des groupes qui arrivaient du nord, de l'est, du sud, de l'ouest. Et j'entends là, évidemment, là, les nations autochtones de tout le nord-est américain. Et chacun de ces groupes autochtones-là transportait avec lui des ressources qui devenait exotique à l'œil des autres. Tadoussac, c'est un endroit hautement stratégique qui draine le grand bassin du lac Saint-Jean, qui est à portée de pagaie de la rive sud, de la Gaspésie, puis évidemment des nations en amont sur le Saint-Laurent. Pour toutes ces raisons-là, Tadoussac est devenu un endroit de grande foire annuelle. Et ce phénomène-là va être vite remarqué par les premiers Européens, les pêcheurs normands, basques, Breton qui ose s'aventurer en amont sur le fleuve.
Comment décrire ce territoire-là? C'est un territoire d'aventuriers.
Le fleuve Saint-Laurent est une trappe à naufrage. À l'entrée du Saint-Laurent, ce sont des écueils, ce sont des courants marins qui se rencontrent. Pendant 500 ans, on est à la voile. Il s'agit d'une petite tempête et boum, ça y est, on est poussé sur la côte nord qui est beaucoup de caps rochers. Combien a-t-il d'épaves sur la côte nord? C'est une question que personne ne peut répondre. Minimum 400, ça c'est sûr, mais entre 500 et 1000, il y a ça au moins qui dort encore là, dans les eaux de la côte nord. Dépendamment des mouvements de sable, on peut avoir des trésors, des découvertes là, fortuites, inattendues, partout où on marche sur le bord de la plage. C'est notre patrimoine à tous. Si on trouve quelque chose d'exceptionnel sur la plage, que ça appartienne à une épave, on ne sait pas, c'est peut-être la pointe de l'iceberg, on doit le déclarer au ministère de la Culture.
Revenons à nos pionniers européens qui parviennent à atteindre Tadoussac.
Ils amènent avec eux des ressources, des produits inédits et extraordinairement attrayants pour les Autochtones. Ce ne sera pas partie facile pour ces étrangers-là, entre guillemets, de s'ajouter comme nouveaux joueurs dans l'échiquier. C'est pour ça que l'aspect diplomatie va prendre une grande importance. Si on fait référence au traité de la Pointe aux Alouettes en 1603, c'est par ce traité-là que les Français vont s'annoncer comme des alliés fiables des groupes autochtones qu'ils rencontrent à cet endroit-là. Et bon, il y a eu là un grand rassemblement. On a fait tabagie, c'est-à-dire une grande célébration. On s'est nourri certainement de loups marins. On s'est échangé des présents entre Français et Autochtones. Et pour fêter cette signature-là, tout ce beau monde-là se déplace où? Tadoussac, pour poursuivre les festivités, mais surtout les échanges. Tous les produits de fer, de métal, dont les Autochtones seront si friands pendant des siècles. Les missionnaires aussi vont vite adopter Tadoussac comme lieu de conversion. Les Récollets d'abord, ensuite les Jésuites qui vont amorcer une longue tradition de visite. C'est même là que vont s'écrire les premières notions d'Innu par la littérature. Et puis, tranquillement, Tadoussac, après quelques décennies, va perdre son importance parce que Québec sera fondé en 1608. Et là, la balance des échanges, la balance de l'administration de la toute nouvelle colonie se déplace évidemment là, vers Québec. Par contre, Tadoussac va garder son rôle de port d'escale, va garder son rôle aussi de lieu commercial pendant plusieurs décennies.
À l'heure actuelle, ce que je vois, c'est l'entrée du Saguenay. On a l'entrée du Saguenay, on a le Saint-Laurent, on a la pointe de Baie-Sainte-Catherine, la bâture aux Alouettes. La bâture aux Alouettes, quand c'est marée haute, on croirait un petit îlot. Puis quand c'est marée basse, c'est vraiment une belle étendue de sable qui va jusqu'à la plage de Baie-Sainte-Catherine. C'est là où s'est signé le premier traité d'alliance avec différentes nations amérindiennes puis Champlain. La bâture amène beaucoup de sortes de canards. En plein cœur d'été, c'est plein de goélands, plein de cormorants. Agathe Poitras, je suis née à Baie-Sainte-Catherine. Je suis guide sur les bateaux de croisière aux baleines. Ça fait plus de 20 années. Quand on quitte pour aller aux baleines, pour aller au large, bon, on ne peut pas faire un voyage aux baleines sans aller au phare au Fond-Prince. Tout le monde le voit. Tout le monde se demande c'est quoi. Il y en a qui pensent que c'est une plateforme pétrolière, d'autres qui s'interrogent là-dessus. La toupie, à cause de sa forme, ça ressemble vraiment à une toupie. Il y a une forme plus mince à sa base. Après ça, il y a un secteur un peu plus large où est-ce que toutes les installations, chambre des gardiens, les pièces communes. Puis au-dessus de tout ça, il y a une tourelle qui est là, avec sa lumière au sommet. Il est rouge, il est blanc. Il est vraiment magnifique. C'est une grande structure qui domine la place. Puis qui sert à quoi? Bien, le Saint-Laurent, ça a l'air d'être une zone hyper profonde, mais dans ce coin-là, il y a un gros fond qui fait 5 à 10 mètres de profondeur, comme un pic rocheux. La construction date de 64, puis elle a été complètement automatisée au début des années 80. C'est l'emblème du Saint-Laurent. Pas juste de Tadoussac, c'est vraiment le Saint-Laurent. Là. Parce qu'il y a plusieurs phares sur le Saint-Laurent, mais c'est assez unique de penser que lui, il est en plein milieu de la voie maritime.
GREM, groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins.
Là où on se trouve, c'est le centre d'interprétation des mammifères marins, un antre au squelette, comme si on venait se plonger sous l'eau, sauf qu'on vient aussi se plonger sous la chair des baleines. Quand vous êtes rentré, vous êtes tout d'abord passé à travers la mâchoire d'un rorqual bleu. On n'a malheureusement pas son squelette en entier. C'est tellement grand que ça ne rentrerait pas dans notre pièce. Mon nom, c'est Mélanie Bourque. Je suis chef naturaliste pour le GREM. La collection de squelettes ici, c'est la plus grande collection de squelettes de baleines montées au Canada. On a presque toutes les espèces du Saint-Laurent, plus quelques petits individus qui ont été des visiteurs rares qui se sont retrouvés ici. Ce sont des squelettes provenant de carcasses de baleines retrouvées en bordure du Saint-Laurent. Tout le long de la côte nord, là, sous l'eau, dans le Saint-Laurent, il y a un grand chenal qu'on appelle chenal laurentien. Ce grand chenal-là, il prend fin ici à Tadoussac. Au milieu de l'eau, il y a une sorte de tour là, qui se tient là. C'est un phare pour indiquer le haut fond. En fait, c'est la fin de ce chenal laurentien-là. Ça crée un mur sous-marin. Qu'est-ce qui se passe avec tout le courant qui nous arrive, le froid de l'Atlantique qui pénètre dans le Saint-Laurent? Ben là, il frappe un mur. Et à chaque marée, on ramène les eaux du fond. On ramène toutes sortes de nutriments qui ont sédimenté et tout ça. On vient faire du brassage. C'est toujours une zone qui est très riche en nourriture. Si elles viennent jusqu'ici, les baleines, c'est pour manger. Il y a de la nourriture en abondance. Donc, on vient là, avoir une bonne concentration de baleines.
Les baleines, c'est un peu comme des éléphants. C'est des animaux qui sont mythiques, qu'on veut voir depuis qu'on est tout petit. On veut voir une baleine. Dans les zoos, on ne peut pas voir des baleines. Alors, il faut aller en nature pour les voir. Et ici, il faut prendre le temps. Il faut s'asseoir le long des roches avec un bon pique-nique, en famille, relaxé. On peut même ajouter une bouteille de vin. Et prendre son temps. Et quand on prend son temps, là, il va y avoir des rencontres qui vont se faire. Et chaque rencontre étant unique, ça va faire des souvenirs mémorables qu'on va raconter pendant des années. Le danger, c'est que si on rencontre des baleines trop souvent, on va devenir addict. Puis on va vouloir en voir encore, puis ça va donner un périple d'année en année, puis on va vouloir revoir les baleines. Et après ça, on va venir travailler au GREM. Mon nom, c'est Patrice Corbeil. Je suis directeur des projets éducation du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins et directeur du centre d'interprétation ici. Moi, avant de travailler avec les baleines, je travaillais avec les oiseaux dans la forêt. J'étais isolé à écouter des oiseaux à 4 heures du matin. Alors, c'est un monde fantastique à découvrir. Il y a beaucoup de maringouins. Le long du fleuve, il n'y a pas de maringouins. Chaque année, je passais ici pour voir les oiseaux de proie aux dunes de Tadoussac. C'est un endroit formidable. Et le milieu marin m'attirait de plus en plus. Et un jour, j'ai fait la rencontre de Robert Michaud, qui est le vrai fondateur du GREM. C'est vraiment lui l'idéateur du GREM. Alors, je l'ai rencontré en 86. Et je lui ai dit, moi, j'aime travailler avec les oiseaux, mais j'aimerais aller vers les baleines. Ça doit être pareil. Il faut être patient pour travailler avec les oiseaux. Ça doit être pareil avec les baleines. Il faut faire des photos avec les oiseaux. On doit être similaire avec les baleines. Puis là, on a eu un match. On a dit, OK, mais moi, je vais faire environ 3 ans, peut-être 4 ans avec toi, puis ensuite je vais aller me promener ailleurs parce que je suis un voyageur. Et ça fait déjà 35 ans que je suis ici.
GREM, en fait, c'est des gens qui ont eu cette idée-là de vouloir à la fois étudier les baleines dans le Saint-Laurent, mais pas juste de faire de la recherche, d'en parler aussi.
Je me souviens qu'en 1986, on allait dans des salons à Montréal, à Québec, on disait aux gens, savez-vous, il y a des baleines dans le Saint-Laurent. Des rorquals bleus, des rorquals communs, des rorquals à bosse, des cachalots, etc. Des gens ne savaient pas ça. C'est un fait, oui, on a une richesse incroyable dans le Saint-Laurent, on a une diversité incroyable de baleines dans le Saint-Laurent. Ce n'est pas des poissons, les baleines, c'est des mammifères marins. Alors, ils viennent respirer, c'est 20 % de leur temps de vie dans la journée. Donc, c'est juste une fraction de leur vie qu'on voit lorsqu'ils viennent respirer. Il se passe plein de choses sous l'eau qu'on ne sait pas. Et parfois, un rorqual bleu, par exemple, qui pourrait rester 17 minutes sous l'eau, peut faire plusieurs kilomètres de distance.
Quand elles partent en plongée, ces baleines-là vont montrer la queue. Et sous la queue, il y a des motifs de coloration qui est unique pour chacun des individus. On prend une bonne photo, un bon cliché, on le compare à notre banque de données, notre album de famille, si vous voulez. Puis, on fait des matchs et on est capable de savoir, par exemple, Tic-Tac-Toe, qui est un peu une vedette du secteur. Ça fait depuis le début des années 2000 qu'elle revient chaque année dans l'estuaire. On l'a revue tous les ans, au point qu'on fait souvent un pool dans l'équipe pour dire, OK, cette année, à quelle date Tic-Tac-Toe va être de retour? On a connu Tic-Tac-Toe avec son premier baleineau en 2005, Aramis. Aramis, on l'a vu elle aussi plusieurs fois avec son propre baleineau. Ça nous donne un peu un lien privilégié aussi de connaître ces individus-là.
Et de temps en temps, il y a des surprises qui arrivent. Depuis environ 5 ans, on observe un narval qui est une baleine qui, elle, c'est certain, elle vit dans l'Arctique comme les autres bélugas. Un narval qui est parti du nord s'est fait des amis avec les bélugas. En fait, c'est qu'ils vont nager ensemble, ils vont se frotter, ils vont créer des liens. C'est un animal très grégaire, le béluga. Il semble vivre avec ces bélugas-là. Et à chaque année, c'est la surprise qui revient parce qu'on revoit ce narval-là et avec les photos, on peut identifier que c'est le même narval. C'est assez fascinant quand même. Est-ce qu'il va être là cette année? On se croise les doigts puis on croit que oui. Ça se pourrait que le narval revienne encore. C'est des milieux ouverts, les océans. Alors, il peut arriver plein de choses. Puis moi, je pourrais vous dire que durant la brume, une fois, je pense avoir vu une sirène.
Restaurant chez Mathilde.
Je suis arrivé à Tadoussac ici en 95.
Jean-Sébastien Sicard, chef cuisinier au restaurant chez Mathilde.
J'étais musicien, puis j'avais un groupe de musique, puis on était venu jouer au Festival de la chanson en 95 ici à Tadoussac. Puis on est tombé en amour avec la place, puis je suis venu passer une première été à Tadoussac comme serveur. C'était au Café du Fjord, une espèce de restaurant hyper le fun, où ce qui engageait seulement des musiciens pour servir. 4-5 fois par soir, on arrêtait, puis on se mettait à jouer. J'ai fait ça pendant 7 ans, je suis pas reparti. Puis là, bien, un jour, avec Mireille, tu sais, ma conjointe, qui est adoucassienne, une vraie, on avait l'envie de faire de quoi, trouver peut-être une petite auberge, ou on a eu l'opportunité d'acheter ici, en plein cœur du village, qui est un endroit extraordinaire. Puis on a sauté dans l'aventure. J'étais serveur. Moi, je ne suis pas supposé être dans la cuisine. Parce que je trouve qu'on est en arrière, à la chaleur. Moi, je suis quelqu'un qui parle, qui aime décrire, qui aime, tu sais, parler de ce qu'il y a sur la table, dans l'assiette, comment l'assiette est faite, tu sais. Puis en fin de compte, je ne retournerai pas comme serveur. T'sais. J'ai vraiment, vraiment trouvé ma voie. C'est comme une espèce d'explosion à l'intérieur. Quand j'ai commencé comme jeune chef à l'époque, il y a 14 ans, quand quelqu'un arrivait avec de quoi, que ce soit une racine, peu importe, je l'achetais. Je ne sais pas quoi faire avec ça, mais je vais trouver. Puis là, bien, tout le goût par rapport à l'histoire de la Côte-Nord, tout le côté terroir, tu sais, on savait que Charlevoix sont hyper développés, mais la Côte-Nord, très peu. Mais, je veux dire, on a plein de beaux producteurs, puis plein d'artisans, tu sais, avec des produits extraordinaires. Jusqu'à un moment donné où je me suis dit, on va pouvoir de plus en plus se définir comme une cuisine nord-côtière. S'il y avait une représentation, un drapeau qui pourrait nous représenter la Côte-Nord, ça serait l'Airel, la petite graine rouge. Tous les gens font des desserts, des confitures, espèce de petit côté amer, hyper intéressant. J'aime beaucoup travailler la geste maritime. La geste maritime, c'est une plante qui pousse sur le littoral du Saint-Laurent, qui vient de Natashquan, qui est un produit extraordinaire. On en fait des sauces, des pestos, juste en salade comme ça, hyper bourré de saveurs. La salicorne, la sabline, des plantes légèrement salées, un peu grasses. Je travaille beaucoup avec une petite miellerie ici à Sacré-Cœur qui s'appelle Herbe à miel, qui font des produits extraordinaires.
À 16 minutes de Tadoussac, le plus vieux village du Canada fondé en 1600 se trouve Sacré-Cœur. Tout comme l'ensemble des villages du secteur Best en Haute-Côte-Nord, son peuplement débute après l'abolition des postes du roi, qui réservait ses territoires à la traite des fourrures. La compagnie de la baie d'Outson perd ses privilèges sur ses territoires pour que débute la plus belle des aventures de la colonisation. Village agroforestier, Sacré-Cœur continue d'exploiter les ressources forestières avec des entreprises comme Boissaco, mais se tourne de plus en plus vers le tourisme. Le fjord le traverse sur 40 km. On peut l'observer dans toute sa splendeur à Lance de Roche. Véritable havre naturelle sur les routes touristiques du fjord et des baleines, Sacré-Cœur est une halte incontournable pour comprendre la Côte-Nord d'hier et d'aujourd'hui. Au revoir Sacré-Cœur, retour sur la 138.
Les voyageurs côté droit de la voiture qui peuvent se permettre là, de quitter des yeux la ligne de la 138, vous allez lire des termes assez intrigants sur les panneaux, que ce soit les rivières, que ce soit les lacs. La toponymie nord-côtière est extrêmement riche. Elle nous renvoie à différents épisodes historiques, à différentes nations. La majorité des toponymes sont d'origine française. Certains seront d'origine anglaise, peut-être plus en Mingani-Basse-Côte, mais évidemment des toponymes autochtones aussi.
À 20 minutes de Tadoussac, Bergeronne. Nom donné à ce magnifique lieu par Champlain en raison des bergeronnettes qu'il y avait observées. Le village abrite l'un des sites les plus propices à la découverte de 13 espèces de baleines. Le centre d'interprétation et d'observation de Cap de Bon-Désir, une ancienne station de phare, réconcilie les écologistes avec le beluga du Saint-Laurent, une espèce en voie de disparition. Bergeronne figure comme un haut lieu de l'archéologie au Québec avec ses 22 sites, dont deux s'avèrent une source de fierté pour la communauté Innu d'Issipit. Il y a plus de 8000 ans, leurs ancêtres, les Issipinuat, occupaient de manière régulière le Cap de Bon-Désir en vue d'échanges, de commerces et d'alliances, voire également de confrontations. Dans la foulée de la colonisation, Issipit a vu son Itassinan rétrécir comme peau de chagrin. À partir de 1993, cette communauté décide de se réapproprier sa culture et de devenir une force économique. Ses entreprises, dont les croisières Issipit, lui permettent aujourd'hui de se vanter d'être le cinquième employeur en importance de la Haute-Côte-Nord.
Continuez sur route 138 jusqu'à Les Escoumins.
L'Escoumine, c'est une déformation d'un terminou qui signifie l'endroit jusqu'où on peut récolter des graines, probablement l'airel, la graine rouge. Bergeronne et Escoumins, ce sont des lieux fréquentés assez tôt dans l'histoire, entre autres par les baleiniers basques. Les Basques, on en parle beaucoup sur la côte, ce sont des gens évidemment d'origine européenne, sud-ouest français, nord-est espagnol, des gens d'une culture tout à fait particulière là, qui, déjà au Moyen Âge, avaient la réputation d'être les plus grands baleiniers d'Europe. Certains prétendent qu'ils étaient là avant Cartier. Chose certaine, là, à partir des années 1540, 1550, ils sont présents dans le détroit de Belle-Île, à l'extrémité est de la côte nord, mais aussi en Haute-Côte. Ces gens-là pourchassent la baleine dans des navires à voile à coups de harpons propulsés à bras d'hommes. Donc, les résultats étaient loin d'être industriels. N'empêche que, bon an, mal an, selon les statistiques, on arrivait à tuer une dizaine, une quinzaine de baleines là, par année. Essentiellement, c'était pour en ramener de l'huile qui était utilisée en Europe pour l'éclairage. Au site de Lens à la Cave, on va découvrir là, des installations où était mise en barrique l'huile de baleine, entre autres un petit abri recouvert de tuiles. Et ces fameuses tuiles-là sont des marqueurs culturels, matériels, très révélateurs relativement à la présence basque, parce qu'on parle des mêmes tuiles qui recouvrent des habitations du nord de l'Espagne ou du sud-ouest de la France. Un incontournable, c'est le Centre Archéotopo au Bergeron. Cette institution-là présente un grand survol de l'histoire de la Côte-Nord par ses sites archéologiques majeurs. On recule à il y a plus de 8000 ans avec les plus anciennes présences amérindiennes détectées dans ce secteur-là. Et on aborde la question de l'industrie, l'arrivée des compagnies minières, des compagnies papetières qui, elles aussi, ont laissé des traces matérielles sur le territoire. Un peu à l'est de la région des Bergeronnes, on lit sur certaines cartes « mille vaches », un toponyme encore là très ancien, qui ne nous renvoie pas, malgré les apparences, au monde agricole, mais plutôt par une curiosité naturelle, en fait, sur la berge, sur une longue distance dans ce secteur-là, apparaissent d'énormes rochers qui sont découverts à marée basse. Et vu par l'œil d'un navigateur s'approchant de la côte, ça donne l'impression d'un énorme troupeau qui est en train de paître le long du rivage.
Mille vaches. Si vous fermez les yeux un instant, vous plongerez au beau milieu du 17e siècle, alors que le seigneur de Beauport et premier médecin de l'Hôtel-Dieu de Québec, Robert Giffard, se voit attribuer la toute première seigneurie de la Côte-Nord, la seigneurie de Mille vaches. Un État dans l'État, un peu comme le Vatican. Car elle se situait au beau milieu du domaine du roi. Cela se passa en 1653 sous le règne du roi Soleil. Robert Giffard est le premier seigneur colonisateur de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, la seigneurie n'est plus, mais elle abrite la municipalité de Longue-Rive, née de la fusion de Saute-aux-Moutons et de Saint-Paul-du-Nord, anciennement Saint-Paul-de-Mille-Vaches. Et on y trouve le deuxième marais salé en importance au Québec. Un endroit particulièrement recherché par les ornithologues pour l'observation de la bernache du Canada, la grande oie des neiges et de nombreux oiseaux de rivage.
Continuez sur route 138 en direction de Forestville et Portneuf-sur-Mer.
Les Autochtones fréquentaient l'embouchure de la rivière du Saut-au-Cochon depuis des millénaires avant l'arrivée des pêcheurs basques et des commerçants français. Cette magnifique rivière qui déverse ses eaux en plein cœur de Forestville a servi de théâtre à de joyeuses retrouvailles pour ces nomades. Comme à Portneuf-sur-Mer, l'industrie du bois y succède au commerce des fourrures. L'arrivée des premiers travailleurs forestiers pousse les Autochtones à se réfugier dans la réserve de Betiamite. À Forestville, de la Sierry Slevin à la japonaise Deshawa, en passant par William Price, l'anglo-canadien Pulp et la compagnie Reed, tous se disputent les plus belles forêts de ce territoire peuplé de lacs. L'aventure forestière cesse en 1992. Comme à Portneuf-sur-Mer, Forestville mise sur sa plus grande richesse, la proximité du fleuve Saint-Laurent, sans négliger son parterre forestier qui lui a assuré bien-être et progrès pendant plus d'un siècle. Sur la route de la Côte-Nord. Une production de Tourisme Côte-Nord, conçue par Magnéto. Réalisation, Daniel Capeille et Nicolas Lachapelle. Prise de son, montage et mixage, Daniel Capeille. Musique originale, Mehdi Cayenne. Narration, Héloïse de Merspinard. Direction de production, Alexandra Villot.
Recherche, Société historique de la Côte-Nord, avec la participation du ministère du Tourisme et la MRC de la Haute-Côte-Nord. Avec, dans ce premier épisode, Steve Dubreuil, anthropologue et archéologue, Éric Faneuf, chasseur d'épaves et archéologue, Mélanie Bourque, chef naturaliste au GREM, Patrice Corbeil, vice-président du GREM, Agathe Poitras, guide sur les croisières aux baleines, Jean-Sébastien Sicard, chef cuisinier. Poursuivez la route avec nous dans les prochains épisodes.